7:04.
BBC's Brian Hanrahan.
Buenos días, comienzan las comparecencias.
Thanks so much for that report.
Le journal de l'international. Bonsoir, Michael Thébault.
Bonsoir, Nicolas.
Pour commencer, Michael, direction l'Argentine où Barack Obama a rendu hommage aujourd'hui aux victimes de la dictature militaire.
Oui, après sa visite historique à Cuba, le président américain a voulu cette fois commémorer à sa façon cette date hautement symbolique pour les Argentins. Le 24 mars 1976, coup d'État de la junte militaire, alors dirigé par Rafael Videla. 7 années de dictature, de sanglante répression. Et 40 ans jour pour jour après, Barack Obama a loué le courage, la ténacité des familles, des épouses et des enfants qui ont refusé, a-t-il dit, d'abandonner leur lutte pour la vérité, citant les mères et les grands-mères de la place de Mai à Buenos Aires. « Plus jamais ça », a dit le président américain, réitérant au passage sa promesse d'ouvrir les archives militaires du Pentagone et même celles de la CIA, ce que réclament depuis des années les défenseurs des droits de l'homme en Argentine, qui ont d'ailleurs boycotté cette visite. Rappelons évidemment que les États-Unis avaient largement collaboré à la mise en place de dictatures dans toute l'Amérique latine. Bonsoir Caroline Vic, en direct de Buenos Aires.
Bonsoir Michael, bonsoir à tous.
Alors on s'arrête précisément ce soir sur cette spécificité argentine, car contrairement aux autres pays du continent, eh bien l'Argentine, elle, a choisi de juger les responsables de cette dictature. Et 40 ans après, 1132 personnes ont déjà été condamnées pour crimes contre l'humanité, Caroline.
Oui, exactement. Près d'une centaine de procès ont été menés. Une quinzaine sont actuellement en cours. C'est dire l'ampleur du désastre réalisé en Argentine durant la dictature de Videla. Alors aujourd'hui, pour se souvenir, des visites ont lieu dans des centres de détention devenus des musées. Le plus grand, c'est celui de l'ancienne école militaire, l'ESMA. Sur 50 000 prisonniers, seulement 250 y ont survécu. Guidé par Sarama, une jeune Argentine de 19 ans, un groupe s'apprête à entrer au sous-sol.
C'était le premier et le dernier endroit où passaient les prisonniers. Le premier, parce qu'après être entré à l'ESMA, l'interrogatoire se faisait ici sous la torture. C'était aussi le dernier, car après avoir été emprisonné, on les emmenait à l'infirmerie au sous-sol et on leur injectait un tranquillisant pour qu'ils s'endorment. Et de là, on les emmenait à la base aérienne.
Inconscients, les prisonniers étaient jetés de l'avion dans la mer. C'est ce qu'on a ensuite appelé les vols de la mort. Les femmes enceintes connaissaient, elles, le même final après leur accouchement et le vol de leur bébé. Une horreur sans nom qui commence donc le 24 mars 1976. Ce matin-là, on pouvait entendre ce communiqué de Jorge Rafael Videla annonçant que le pays était sous contrôle militaire et réclamant ordre et coopération.
Comunica a la población que a partir de la fecha el país se encuentra bajo el control operacional de la junta militar.
Voilà, c'est alors le début d'un véritable régime de terreur qui laissera derrière lui, Caroline, près de 30 000 disparus.
Oui, disparus, c'est un terme sur lequel Videla lui-même avait pu réagir lors d'une de ses rares conférences de presse.
Les disparus, c'est un mystère. Face à cela, on ne peut rien faire. Si quelqu'un disparaît, on ne peut pas lui donner un traitement spécial. Il n'a pas d'identité, il n'est pas là, ni mort, ni vivant, il a disparu.
Mais la réalité a vite fait surgir, la vérité bien sûr, et les survivants ont commencé à témoigner. C'est le cas de Mercedes, jeune militante péroniste de 22 ans à l'époque, arrêtée chez elle en février 1978 et séquestrée pendant 3 ans et demi.
La pasamos muy mal.
Ça a été très dur. C'était un non-sens, la folie, pure et dure. Les cris, le désespoir, la faim, la saleté. Tout ce qu'on peut imaginer, tout ce qu'un être humain peut faire à un autre être humain parce qu'il en a le pouvoir. Dans notre cellule, on était 8. Aucune n'a survécu. Je ne sais pas où elles sont. Je me demande pourquoi j'ai survécu. Je n'en sais rien. Donc toutes ces atrocités ne peuvent pas rester impunies parce qu'autour de nous, il y a eu beaucoup de morts. Et être témoin de tout ça aujourd'hui, c'est mon devoir.
On a son devoir. Et à l'époque, rappelons-le, les militaires pouvaient compter sur l'aide de deux pays et pas des moindres.
Oui, dès les années 60, à l'école militaire, les méthodes pour torturer et pour faire disparaître les corps étaient enseignées directement par des officiers de l'armée française après la guerre d'Algérie. Quant à la logistique, c'était les États-Unis, à travers un plan mis au point entre 75 et 77, appelé le plan Condor. L'idée était de mettre en place des dictateurs sur tout le continent sud-américain et d'éliminer systématiquement les opposants. Diego Morales est l'un des directeurs du Centre d'études légales et sociales de Buenos Aires.
Il existe des preuves de communication entre les gouvernements d'Amérique du Sud et les États-Unis. Des visites aussi de Kissinger sur le continent où ils ont discuté de sujets autour du renseignement. Les intérêts étaient économiques, mais ils étaient aussi inquiets des revendications politiques dans la région. C'était l'époque d'Allende au Chili et en Argentine, on parlait du retour de Perón. Les réactions des militants de gauche, c'était quelque chose qui inquiétait beaucoup le gouvernement américain.
D'où la polémique sur la visite d'Obama, hein, qui a tout de même fait preuve de bonne volonté en confirmant hier la déclassification de documents secrets des renseignements américains et de l'armée. Il faut affronter le passé avec honnêteté et transparence, a-t-il déclaré ce matin. Les organismes des droits de l'homme, eux, espèrent ainsi retrouver les 400 enfants volés vivant aujourd'hui sous une autre identité et les restes des 30 000 disparus.
Voilà, et l'on verra donc si cette promesse américaine est ou non tenue. Merci beaucoup, Caroline Vic, correspondante de France Inter en Argentine.
Allez, on change de continent, Michael. Direction maintenant l'Afghanistan pour évoquer une initiative aussi étonnante que courageuse.
Oui, et ce sont vraiment les deux épithètes hein, qui viennent immédiatement à l'esprit quand on rencontre ces jeunes Afghanes, jeunes femmes qui forment l'équipe nationale de cyclisme féminin, authentique sportive et militante dans cet Afghanistan en lambeaux où les talibans contrôlent plus de territoire aujourd'hui qu'en 2001. Alors ces femmes enfourchent leur vélo comme un symbole de liberté pour combattre les préjugés, montrer que les femmes ne sont pas condamnées à rester à la maison et avec aussi bien sûr un objectif purement sportif, décrocher une qualif, une qualification pour les Jeux Olympiques de 2020. Les vélos de la liberté, reportage à Kaboul, signé Vanessa Descouraux.
L'entraîneur de l'équipe donne rendez-vous chez lui, un quartier à l'habitat traditionnel. Les maisons sont en terre cuite, l'eau s'écoule au milieu des ruelles dans un système sommaire d'évacuation. Tant pis pour les 80 km en extérieur initialement programmés. Ce vendredi matin, l'entraînement se fera en intérieur, à l'abri des regards, dans le garage du domicile du coach. Entraînement minimal, mais au moins entraînement sans risque, raconte Mossa Malissada, 19 ans. Elle a rejoint l'équipe nationale il y a 4 ans tout juste.
On fait très attention, car certaines personnes veulent nous intimider. Ils klaxonnent très fort en nous croisant sur la route, ou alors ils rapprochent dangereusement leur voiture de nos vélos. On fait très attention qu'il n'y ait pas d'accident, on veille les unes sur les autres pendant les entraînements. On connaissait toutes ces difficultés, on savait à quoi s'attendre. Malgré tout, on a continué, on doit poursuivre cet effort. On veut atteindre notre but. Et tant qu'on n'aura pas démocratisé le vélo dans ce pays, on n'arrêtera pas.
Abdul Sedaki entraîne cette équipe depuis 8 ans. Ce rôle, il le voit comme un acte militant, sa façon à lui de défendre les droits des femmes dans un pays où elles n'en ont pas ou si peu.
Je suis tellement habitué aux menaces que je n'ai plus peur de mourir. C'est pour ça que le lieu de rassemblement est chez moi. Parce qu'ici, la sécurité est assurée. J'ai choisi ma maison pour garder les filles en sécurité. Sinon, on pourrait très bien louer un endroit à l'extérieur, mais on serait gêné par les gens. Si on s'installait ailleurs qu'ici, je suis sûr à 100% qu'on serait en danger.
Dans son quartier, Abdul a appris avec le temps à faire respecter ses filles. Comme il dit, ses sportives, mais au-delà de son périmètre, il avoue subir régulièrement des pressions. Par téléphone essentiellement, mais il confie un peu plus tard avoir été victime d'une tentative de meurtre. Il y a 10 jeunes filles dans l'équipe, des étudiantes pour la plupart, attendues 3 fois par semaine pour les entraînements. Ce matin-là, seules 4 sont venues ou ont pu venir.
Tu as l'air très heureuse sur ton vélo. Quand je suis sur un vélo, j'ai l'impression que je vole dans le ciel.
Elles arrivent en tenue de ville. Impensable, dit l'une d'elles, de quitter son quartier avec son équipement déjà enfilé. Rora Rabibzeï vient de se changer. Elle revient avec un très léger foulard sur ses cheveux et son maillot de cycliste sur le dos. À 18 ans, elle a rejoint l'équipe nationale il y a un an.
Quand j'avais 12 ans, on avait un vélo à la maison. Je ne savais pas en faire. Quand je m'asseyais dessus, j'essayais de pédaler, mais je n'y arrivais pas. Petit à petit, j'allais dans la rue avec mes neveux et j'y suis parvenue. C'est comme ça que j'ai appris, jusqu'à ce que j'arrive à intégrer l'équipe nationale. Le cyclisme, c'est devenu une habitude pour moi. Je ne pense pas pouvoir vivre sans vélo. Dans notre vie quotidienne, on ne se déplace jamais à bicyclette parce que notre société n'est pas ouverte à ça. Si on n'a pas nos équipements sportifs sur le dos, on ne peut pas sortir le vélo.
Les sportifs se partagent à tour de rôle le maigre équipement dont dispose leur entraîneur. Un vélo d'appartement, un tapis de course. Cette équipe nationale a déjà disputé les Jeux asiatiques, mais ne dispose d'aucun moyen, même pas de reconnaissance, juste de l'envie, de la passion et surtout de la folie, comme en ont ceux qui espèrent un jour faire avancer les choses sans jamais pouvoir en récolter les fruits.
La formidable jeune femme, formidable reportage signé Vanessa Descoureaux à Kaboul. Et séduit par cette initiative, plusieurs parlementaires européens viennent de proposer la candidature de cette équipe afghane au prix Nobel de la paix. Allez, pour finir, Nicolas, devinez-en quelques notes où nous allons.
Ma langosha.
Eh bien, ce que vous entendez là, c'est un chant traditionnel perse quelque peu modernisé par deux jeunes Iraniens, Amoun et Raptins. Le titre, New Nowruz Song. Et Nowruz en persan signifie littéralement le jour nouveau. Et nous y sommes, le nouvel an perse a débuté le 21 mars, c'est-à-dire lundi. La plus grande fête de l'année, célébrée par près de 300 millions de personnes dans le monde, dont bien sûr 77 millions d'Iraniens. Et Nowruz, c'est aussi le coup d'envoi de deux semaines de festivités, durant lesquelles Téhéran, par exemple, est comme morte. Vacances politiques, économiques, sociales, tout le pays est au ralenti, jusqu'au 13e et dernier jour, nommé Sizda Bedar, littéralement 13e dehors, jour où les familles iraniennes se réunissent dehors, dans les parcs et jardins, pour pique-niquer et exorciser la malchance liée au chiffre 13. Un rituel inchangé, tenez-vous bien, depuis 3750 ans. À demain.
À demain, Michael.